France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et l'on commence par ce bilan en Chine qui augmente fortement. Le nombre de morts liés au coronavirus est maintenant de 80, selon le dernier bilan du gouvernement chinois. Plus de 2700 personnes sont touchées. Le directeur de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est en train de se rendre en Chine, où les congés liés au nouvel an chinois sont d'ailleurs prolongés jusqu'à dimanche prochain. En France, 6 personnes attendent des résultats d'examen à l'hôpital. 3 cas sont déjà avérés. La ministre de la Santé Agnès Buzyn annonçait hier soir que les Français habitant à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie en Chine, que ces Français allaient être rapatriés en milieu de semaine s'ils le souhaitaient. Le syndicat des tours opérateurs français recommande par ailleurs de suspendre les voyages organisés vers la Chine jusqu'au 21 février au moins. Après l'attaque visant leur ambassade à Bagdad en Irak, les États-Unis demandent au pays de protéger toutes leurs installations diplomatiques. 3 roquettes ont visé le bâtiment hier, au moins une personne a été blessée. En Libye maintenant, la mission des Nations Unies sur place, la MANUL, dénonce la poursuite des violations de l'embargo sur les armes. Ces armes s'y vendent encore, et ce malgré les engagements pris par les États concernés la semaine dernière. Elle est la cause de mains arrachées ou de jambes brûlées pendant les manifestations en France. La grenade Gli F4, une grenade lacrymogène, ne sera plus utilisée par les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, l'annonçait hier. Certains dénoncent toutefois un coup de communication, rappelant que cette grenade n'est plus produite depuis 6 ans et que les stocks étaient bientôt épuisés. Enfin, pour les municipales à Paris, Cédric Villani tient tête à Emmanuel Macron. Le député La République En Marche de l'Essonne maintient sa candidature à Paris, malgré la demande du président de se rapprocher de Benjamin Griveaux. Après avoir été reçu hier par le chef de l'État, Cédric Villani acte une divergence majeure.
Le 27 janvier 1945, les soldats soviétiques de l'armée rouge ouvrent les portes du camp d'Auschwitz-Birkenau et libèrent les déportés survivants. En avril, les soldats américains libèrent le camp de Buchenwald. Le monde découvre alors l'existence des camps d'extermination nazis. Jusqu'au 30 janvier, France Culture consacre une programmation exceptionnelle au 75e anniversaire de la libération des camps. Rendez-vous dans vos émissions Les Matins, Le Cours de l'Histoire, La Grande Table, Le Temps du Débat, Une Histoire Particulière. Il y a 75 ans, la libération des camps, à retrouver sur franceculture.fr.
Un éclairage quotidien, les enjeux internationaux sur France Culture. Julie Gacon.
Chaque matin, un éclairage sur un fait de l'actualité internationale, le monde exploré à toutes ses échelles, du local au global. 10 minutes avec un chercheur, une chercheuse, pour renouveler notre regard sur le monde, resituer un événement dans sa perspective historique, évaluer sa portée et en imaginer l'avenir.
Les enjeux internationaux, de lundi à vendredi à 6h45 et sur franceculture.fr.
Et à 6h03, comme tous les matins, c'est Toufik Hakem que nous retrouvons.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans le réveil culturel à la radio ou en podcast. Aujourd'hui, mon invité est Chloé Corman, romancière, essayiste, qui vient de publier au Seuil un texte aussi court qu'intense sur l'antisémitisme en France aujourd'hui. Comment il s'exprime, comment il se développe, et aussi comment il est instrumentalisé. Texte à la première personne qui a pour titre « Tu ressembles à une juive ».
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Chloé Corman.
Bonjour Toufik Hakem.
Tu ressembles à une juive. Avant d'expliquer le titre de votre ouvrage, cette phrase et une autre phrase d'ailleurs que vous avez entendue, que vous ont aidé justement à réfléchir autour de votre identité, de cette partie de votre identité, je voudrais lire un extrait de votre texte. Vous dites « Aimer ou ne pas aimer les juifs est devenu, redevenu, un positionnement stratégique au sein de la société française. C'est une ligne brisée qui la parcourt à nouveau en tout sens et sert à séparer les riches des pauvres, les élites des laissés pour compte, les blancs des non-blancs et dont l'instrumentalisation se fait toujours aux dépens des juifs, mais aussi de toutes les minorités qui se distinguent de la norme blanche catholique à laquelle l'extrême droite cherche à résumer cette société. C'est intimement lié. L'antisémitisme...
Et la montée de l'extrême droite ?
Et les autres formes de racisme. D'ailleurs, ce que vous dites dans ce livre, Chloé Corman, c'est qu'il faut cesser de différencier ce racisme-là, c'est-à-dire l'antisémitisme, des autres formes de racisme.
Oui, j'étais frappée d'ailleurs que vous présentiez le livre sur, comme un livre sur l'antisémitisme. Je pense qu'il y a une thèse dans ce livre qui est l'antisémitisme et le racisme en France. Et une stratégie que je juge perverse de séparation entre les deux formes de haine xénophobe. Alors non pas que je conteste une différence historique, etc. Mais je pense qu'il y a une façon de monter en épingle une sorte de différence structurelle entre ces haines qui est extrêmement dangereuse et qui sert des intérêts politiques d'extrême droite.
Alors, s'il fallait parler de l'origine de ce texte, Chloé Corman, tu ressembles à une juive, on le verra un peu plus tard, c'est ce que vous disait votre grand-mère qui, elle, a été obligée à un moment de sa vie de se cacher. Donc, c'est une phrase qui est tout sauf banale. Une autre phrase va pourtant être très importante pour vous, pour écrire ce texte, qui a déclenché peut-être chez vous l'envie d'écrire ce texte. C'est ce que vous entendez de la part d'une camarade, d'une compatriote à New York, qui ne voyait pas bien d'un bon oeil que vous quittiez une cérémonie religieuse dans une synagogue parce que dans cette synagogue, les femmes étaient tenues à rester derrière les hommes.
Oui, mais alors ça, c'est un vieux souvenir qui date maintenant d'il y a plus de 10 ans. Une jeune femme qui m'a balancé à la figure « Bon, bah si tu viens pas à l'office de Pâques, de la Pâque juive, Pessah, tu n'es pas vraiment juive. » Donc le texte aussi, entre ce « tu n'es pas vraiment juive » et « tu ressembles à une juive », c'est-à-dire « tu n'as pas intérêt à ressembler à une juive », donc toutes ces espèces d'assignations à être, ne pas être, à être exclu. Cette phrase que j'ai reçue de cette jeune femme, « tu n'es pas juive », c'est un souvenir qui est remonté, hein, comme la phrase de ma grand-mère l'an dernier. Il faut dire que le point de départ de ce texte, ce ne sont pas ces phrases que j'avais entendues il y a fort longtemps et que je m'étais empressée d'oublier, en fait. Mais un contexte en France, en fait, le point de départ très précis de ce texte, c'est un article que j'ai publié en mars dernier, dans un journal en ligne qui s'appelle AOC, parce que j'étais suffoquée par une certaine ambiance en France. Donc c'était juste après, vous vous souvenez, Toufik Hakem, en février, il y a eu une vague de faits antisémites, de faits symboliques, de faits d'expressions antisémites très violents. Il y a eu les cimetières profanés à Katzenheim et Herrlisheim en Alsace, qui sont les cimetières où sont enterrés des ancêtres dans ma famille. Il y a eu le visage de Simone Veil barré d'une croix gammée, l'arbre en hommage à Ilan Halimi qui a été scié. Enfin, tout un tas d'expressions, de manifestations antisémites. Et voilà, moi, ce qui m'a en fait fait sortir de ma réserve, de mon calme habituel, c'est le moment, où, la réponse en fait du gouvernement, qui a été de proposer, parce que il y a eu ce moment où aussi le philosophe Alain Finkielkraut s'est fait traiter de sale sioniste dans la rue avec des menaces de mort. C'était un moment extrêmement violent aussi. Et la réponse du gouvernement a été de dire, eh ben puisque c'est comme ça, on propose que l'insulte sioniste soit interdite, que ce soit déclaré l'équivalent d'une insulte antisémite et qu'on puisse plus dans l'espace public traiter quelqu'un de sioniste. Et ça a été terrible parce que j'ai compris que en fait l'assignation identitaire entre juifs et État d'Israël était en train d'être non seulement nourrie par les antisémites, mais aussi par ceux qui prétendent prendre la défense de la communauté juive. Et voilà, donc il y avait une espèce de confusion dans l'espace public qui m'a énormément gênée.
Et donc c'est à partir de là que vous avez décidé d'écrire un texte. Mais comment vous l'avez conçu, Chloé Corman, ce texte? Parce que c'est un texte introspectif, il ne parle que de vous, de votre parcours, de votre famille, de votre culture. Et de vos engagements politiques, on va y venir aussi.
Oui, c'est un cheminement assez inédit pour moi qui, jusqu'à présent, ai publié des romans. Et choisi le chemin de la fiction, c'est-à-dire d'une forme d'anonymat identitaire, Alors une fiction qui parle d'exil, de persécution, de multiples formes de racisme, mais où je ne me mets pas en avant. Et alors là, au contraire, pour réfléchir à ce sujet, j'ai pensé qu'il fallait pas que je parle. Je suis pas politologue, c'était pas pour. J'étais pas là pour faire de la théorie, mais que si je voulais vraiment avoir un discours juste, concret, il fallait que je sois le plus proche possible de mon expérience familiale. Et aussi de mon expérience d'enseignante en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire auprès de populations qui subissent une ségrégation raciale dans l'espace urbain français contemporain. Et je voulais partir de ça et aussi d'une éducation où vraiment l'héritage de l'antisémitisme a conduit mes parents à être des militants antiracistes, à m'enseigner que les humiliations qu'on subit du fait de son identité, de ses origines, sont parmi les plus néfastes, qui peuvent donner le plus de violence en retour. Et c'est de ça que je voulais parler.
Et vous dites le fait de séparer les victimes du racisme, de constituer les logiques racistes et antisémites comme différentes et d'alimenter la haine entre les minorités qui en sont victimes est un dispositif aussi redoutable que grossier. Chloé Corman.
Oui, en ce moment, il y a une division très regrettable dans le champ du militantisme, dans le champ médiatique, entre ceux qui luttent contre le racisme et ceux qui luttent contre l'antisémitisme. Il y a des espèces de confusions regrettables avec des personnes racistes dans les rangs de ceux qui luttent contre l'antisémitisme. Il y a des personnes antisémites dans les rangs des antiracistes. Et tout ça augmente la xénophobie ambiante. Et je parle de dispositifs parce que il y a en place des médias... je parle par exemple du cas de Causeur, qui va être par exemple en première ligne pour dénoncer des faits antisémites, alors que le capital de ce journal est détenu par une personne qui était auparavant détenteur du capital de Minute. Donc je parle aussi de loups en habit de grand-mère. Quoi. On est là face à des
On
défenseurs
ne dénonce
complètement...
l'antisémitisme que pour mieux stigmatiser les Noirs et les Arabes, pour aller très vite.
Bien sûr. Et ça, c'est vraiment une stratégie effrayante et extrêmement néfaste. Hein. Vraiment, l'accent qui est mis sur l'antisémitisme dans la communauté musulmane et arabe, qui est un antisémitisme réel, héritier des confrontations, enfin du face-à-face en Afrique du Nord, qui existe. Mais le fait qu'en France, on mette perversement l'accent sur cet antisémitisme-là, alors que des formes très anciennes, très bien installées de l'antisémitisme dans des milieux, disons, blancs, bourgeois, sont encore tout à fait pérennes, tout à fait existantes. Bon, je ne sais pas, prenons en septembre dernier l'affaire Moix, on a vu que un écrivain tout à fait installé s'était exprimé d'une façon antisémite, mais d'une violence extrême. Bon, enfin, vraiment, toujours mettre l'accent sur l'antisémitisme.
Il a fait son mea culpa, mais vous acceptez pas ce mea culpa, Chloé Corman,
parce que... Je dis que c'est une démonstration de force.
Oui,
qu'aller s'installer sur un plateau télé, c'est une démonstration de force. Et pour revenir sur ce qu'on disait sur l'antisémitisme musulman ou arabe qui est constamment pointé du doigt, ça m'étonnerait que un écrivain musulman ou arabe auquel on aurait trouvé ce genre de passé aurait pu faire son mea culpa dans les mêmes conditions.
Ce qui vous amène à écrire cette phrase très intéressante dans votre livre « Tu ressembles à une juive », Chloé Corman, la phrase de François Fanon: quand vous entendez dire du mal des juifs, dressez l'oreille, on parle de vous, ça on connaît cette phrase, mais vous vous dites cette phrase doit être réversible. Toute entreprise raciste mettant en place des dispositifs restrictifs pour la définition d'un peuple, d'une nation, est menaçante pour les juifs qui seront toujours en peine de prouver une appartenance sans mélange dans cette unité.
Oui, je pense que ça fait partie d'une sorte de malentendu, entretenu par les racistes, de faire croire qu'il y a des hiérarchies, des préférences. En l'occurrence, je fais référence aussi à ce qui est arrivé dans ma famille entre 40 et 44, des juifs alsaciens français depuis des générations ou des juifs étrangers qui venaient de débarquer On a commencé par s'attaquer aux juifs étrangers et on n'a pas tardé à s'attaquer aux autres. Et je pense vraiment que l'identité juive dans son mélange, également dans son athéisme en fait, parce que je pense qu'il y a une identité juive athée qui a tout à fait droit de citer et qu'on cherche à mettre de côté justement pour renforcer une image publique du judaïsme qui est religieux, qui est lié à l'État d'Israël, etc. Une identité mélangée et à la fois celle qui gêne le plus et celle qui devrait avoir plus droit de citer parce que c'est elle qui permet d'entretenir un climat de tolérance dans la société.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Juif. Arabe. Juif. Arabe. Arabe. Juif. Juif. Arabe. Ensemble. Ensemble.
D'écouter Philippe et Catherine qui chantait juif.
Qui se moque bien de nous.
Oui, non, mais c'est une chanson d'époque, j'allais dire, ou un rêve pieux, ou je sais pas comment vous.
Il aurait pu mettre d'autres termes dans la chanson. Je pense que c'est une belle façon de se foutre des discours de vivre ensemble qui sont, quand ils sont des vieux vœux pieux et qui sont pas accompagnés de ce qu'il faut pour le faire. C'est-à-dire, juif, arabe, ensemble. Évidemment, si on ne dit pas la vérité, si on ne décline pas de façon nuancée et contradictoire la réalité sociale, on le fera jamais. Ce qu'il faut, c'est être capable de dire ce dont on parlait juste avant. Par exemple, des stratégies politiques de stigmatisation des populations arabes et musulmanes en disant qu'elles sont les seules antisémites sur la place publique. Il faut savoir dire que l'antisémitisme en France, il représente aujourd'hui la moitié des actes violents de racisme, statistiquement. Il faut savoir prendre fait et acte de l'antisémitisme dans une partie de la population arabe et musulmane. Je pense qu'il faut être capable d'énoncer les choses, sinon, c'est évidemment impossible de faire, de se prendre la main comme ça dans les nuages.
Et ça, vous le dites très bien dans ce texte, Chloé Corman, parce que ça c'est le côté essai de votre livre, mais il y a aussi votre vécu, il y a aussi vos expériences, et puis il y a ce moment assez troublant, parce que c'est une confession lourde de sens. Vous êtes professeur, vous l'avez dit, vous avez enseigné dans les quartiers défavorisés ou dans le département le plus pauvre de France, on n'arrête pas de dire ça à chaque fois qu'on parle de la Seine-Saint-Denis, mais toujours est-il que vous dites qu'à certains moments, à mes élèves, où il n'y a pas de mixité sociale et il n'y a pas de mixité culturelle, à mes élèves, j'avais du mal à dire que j'étais juive. Pourquoi ?
Alors, pas de mixité culturelle, c'est un point sur lequel je reviendrai. Je pense pas qu'on puisse énoncer les choses comme ça. J'ai du mal à énoncer le fait que je suis juive. Oui, c'est-à-dire je constate que si on travaille sur J'accuse de Zola, si on travaille sur un texte de Kafka, si on travaille sur d'autres écrivains juifs, je vais pas dire à un moment que je viens d'une famille juive, que je suis juive. J'ai une appréhension, mais c'est plutôt moi qui ai honte de le dire. Ça prend acte de préjugés très puissant. De fait, je n'ai eu affaire à un moment d'antisémitisme en classe qu'une seule fois. C'est une élève tout d'un coup. Je crois qu'on a parlé de l'affaire de Zola, qu'on parlait de Dreyfus. tout d'un coup, j'ai entendu « Moi, j'aime pas les juifs ». Ça, c'était terrible, parce que, en plus, c'était une de mes élèves, une élève que j'adore, qui venait de faire une espèce de... comme ça. De... Bon. Alors,
qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Alors,
quand on est prof...
je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai arrêté le cours, j'ai dit à tout le monde que c'était insupportable. J'ai dit que l'élève venait d'avoir des propos racistes. Et je tiens au mot. Hein, c'est-à-dire que tous pouvaient s'identifier à ce qui venait de se passer en tant qu'acte raciste. Ensuite, j'ai noté les propos sur un papier, je l'ai envoyé chez la CPE. Et ensuite est venu le moment le plus délicat, mais qui a été un grand soulagement. J'ai appelé la mère de l'élève. Je me suis dit... Et là, en fait, je suis tombée sur une femme qui était absolument consternée par les propos de sa fille. Donc, ça s'est assez vite réglé. Mmh. Donc, c'est évidemment des discours de provocation. Il faut être capable d'ancrer ça dans l'adolescence. Il faut donc être capable aussi de contredire, d'appeler le regard public de la classe. Et de déjouer ainsi ces préjugés. C'est des provocations. Au fond, c'est des provocations d'ailleurs qui ne sont pas situées seulement en banlieue. Hein. Je parle aussi dans mon livre de la provocation de certains milieux de la haute bourgeoisie, de certains milieux littéraires, où l'antisémitisme est un dandysme. Ça m'est aussi arrivé cette année même d'être assis à une table tout à fait choisie du milieu littéraire. Et d'entendre des propos qui étaient poliment antisémites, et pour ce que ça donne un peu des petits frissons de montrer qu'on n'a pas peur des provocations. C'est un dandysme, c'est-à-dire c'est une façon, vraiment c'est une posture intellectuelle qui consiste à montrer que ceux qui empêchent ce genre d'expression ont des mentalités petites bourgeoises, des mentalités qui ne sont pas des mentalités d'artistes.
Paris-Belleville. C'est là que les fantômes de l'antisémitisme viennent me chercher en 2017. Ils ne portent pas les insignes de la Gestapo, ils ne me crachent pas à la figure et ne tabassent personne en pleine rue. Mais ils sont dans l'ombre de ces immeubles. Ils inspirent un climat de peur et de doute qui ne m'avait pas effleuré auparavant dans ce quartier que je connais si bien. Belleville, avec ton nom un peu bené, ton image d'épinal de mosaïque des communautés, je te regarde dans un rayon de soleil tout en mâchant mon sandwich fricassé. Sandwich tunisien, léger, fait de pâte à beignets, œufs durs, olives, thon, le tout frit, posé sur une assiette en porcelaine chinoise, avec un ch'tou de harissa, comme de la confiture, dixit le cuisinier. On est où? On est à Belleville, on est aussi dans ce quartier que vous connaissez bien, Chloé Corman. Quand vous commencez à parler de Belleville, vous nous introduisez à un fait divers, un des derniers faits divers de l'antisémitisme qui fait la une des journaux, c'est-à-dire le meurtre de Sarah Halimi.
Je le raconte comme je l'ai vécu, c'est-à-dire aussi avant son existence médiatique. Je raconte que dans ce quartier, donc que je décris un peu dans son côté enjoué de représentation multiculturelle, qui est larvé un climat de tension. Et ça, avant qu'on parle de l'affaire Sarah Halimi, je suis témoin de ce crime parce que chez une amie, elle habite en face de l'immeuble dont Sarah Halimi est défenestrée. Et en fait, on fait partie des gens qui, on connaît rapidement les circonstances du crime, le fait que l'assassin a eu des propos qui en appelait à la religion, hein, donc qui en appelait à un substrat de conflit religieux avec cette femme. Donc on comprend que il y a une tension, qu'il y a une cause antisémite dans ce geste.
Oui, vous détaillez très bien. Hein. C'est-à-dire que son assassin était atteint de démence, ce qu'il dit va attester d'un substrat d'antisémite.
Absolument. Et ce que je décris aussi, et je pense que c'est important, je dis que donc on reste avec ce crime qui n'est pas encore médiatisé et la façade de l'immeuble de Sarah Halimi qui est ensanglantée. Et ce détail, pour moi, il est important parce que ça montre que c'est un immeuble pauvre, c'est un immeuble dont on s'occupe pas. Je pense que dans certains quartiers bourgeois, ce serait pas resté comme ça pendant aussi longtemps. Ça reste des semaines. Et pourquoi je raconte ça? Parce que je pense que on est dans un milieu de pauvreté de ressentiment. On est dans un, typiquement dans un monde où les haines racistes et antisémites vont s'exprimer parce que il y a des vulnérabilités extrêmes qui entretiennent des climats de haine. Et c'est important de le rappeler quand on se penche sur cette affaire Sarah Halimi.
Mais surtout, vous faites appel à la littérature dans ce texte, Chloé Corman. Et concernant l'affaire Sarah Halimi, eh ben vous convoquez bien sûr Madame Rosa, vous convoquez Romain Gary, La vie devant soi, quand vous nous faites écouter juste le texte.
La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on habitait au 6e à pied et que pour Madame Rosa, avec tous ces kilos qu'elle portait sur elle et seulement deux jambes, c'était une vraie source de vie quotidienne avec tous les soucis et les peines. Elle nous le rappelait chaque fois qu'elle se plaignait pas d'autre part, car elle était également juive. Sa santé n'était pas bonne non plus, et je peux vous dire aussi, dès le début, que c'était une femme qui aurait mérité un ascenseur. Il y avait beaucoup d'autres juifs, arabes et noirs à Belleville, mais Madame Rosa était obligée de grimper les 6 étages seule. Elle disait qu'un jour elle allait mourir dans l'escalier et tous les mômes se mettaient à pleurer, parce que c'est toujours ce qu'on fait quand quelqu'un meurt. On était tantôt 6 ou 7, tantôt même plus là-dedans. Au début, je savais pas que Madame Rosa s'occupait de moi pour toucher un mandat à la fin du mois. Quand je l'ai appris, j'avais déjà 6 ou 7 ans et ça m'a fait un coup de savoir que j'étais payé. Je croyais que Madame Rosa m'aimait pour rien et qu'on était quelqu'un l'un pour l'autre et j'en ai pleuré toute une nuit. C'était mon premier grand chagrin.
Voilà, c'est un extrait de La vie devant soi, la version audiolib chez Gallimard, avec Bernadette Lafont dans le rôle de Madame Rosa. Et là, on vient d'écouter dans le rôle de Momo, Kamel Belrazi. La littérature, pour nous éclairer, pour nous aider, c'est pour ça qu'à un certain moment, Chloé Corman... Vous énervez en disant que on n'a pas donné toutes ces clés, c'est-à-dire la culture, la littérature, à tous les enfants de la République et surtout pas à ceux qui sont parqués dans des cités dortoirs.
Oui, c'est les mêmes qui n'ont pas d'ascenseur dans leur immeuble. Hein. Ouais. On entend là que Madame Rosa elle aurait mérité un ascenseur et on sait que c'est devenu un emblème des quartiers, le problème de transport, de pouvoir aller vers la grande ville, vers les loisirs, vers la culture, et de pouvoir ne serait-ce que monter et descendre dans son propre immeuble. C'est oui, la littérature, moi c'est ce que j'essaye d'apporter aussi avec les ateliers d'écriture, avec l'enseignement de la littérature. C'est ce qui manque et en même temps c'est ce qui est hautement possible, je pense, dans ces quartiers. Tout à l'heure vous disiez l'absence de diversité culturelle et
vous n'étiez pas d'accord, Chloé Corman.
Ça m'a frappé. Quand on pense aux clichés concernant la banlieue, par exemple, y voir des espèces de rebuts, de suites de la France coloniale, c'est une image complètement fausse. Aujourd'hui, les quartiers, c'est le monde. J'ai des élèves qui viennent d'Inde, du Sri Lanka, qui parlent aussi bien anglais que français. Que fait-on de la France antillaise qui est présente aussi dans les quartiers? Enfin, voilà. Et ça, en tant qu'accès à la littérature, ça devrait être un moyen d'intelligence, en fait, avec la littérature, avec la façon dont la littérature fait résonner l'étrangeté de la langue, l'étrangeté de nos usages sociaux. Seulement, on est aussi dans des quartiers où on trouve pas d'orthophonistes, où les classes sont surchargées, où le rapport au langage, l'accès aux livres est extrêmement pauvre. Je pense qu'il faut faire très attention au fait que le langage ne soit pas perçu comme un privilège de classe. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de casser, d'empêcher dans ma pratique de prof et d'écrivain.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Et le livre de mon invité ce matin, Chloé Corman, « Tu ressembles à une juive » est en librairie depuis quelques jours, c'est édité au Seuil. Merci beaucoup Chloé Corman d'être passée ce matin.
Merci à vous Toufik Hakem.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Rendez-vous cet été au Festival d'Aix avec France Musique. Wozzeck de Berg, mise en scène par Simon McBurney, Così fan tutte de Mozart par Dmitri Tcherniakov, le coq d'or de Rimsky-Korsakov par Barikowski, le couronnement de Poppée de Monteverdi et la création mondiale de Kaya Sarriao, Innocence. France Musique, une radio de Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le nombre de faits racistes et xénophobes a largement augmenté en France en 2019. Ce sont les menaces qui sont de plus en plus nombreuses, selon le ministère de l'Intérieur qui publie ces chiffres. État des lieux en début de journal. Des chiffres qui inquiètent, alors que l'on se souvient de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau aujourd'hui. Les portes du camp s'ouvraient il y a 75 ans. Les grenades Gli F4 ne seront plus utilisées par les forces de l'ordre en France. Effet d'annonce ou réelle décision, nous poserons la question. Et puis dans ce journal, nous irons en Chine où le coronavirus s'étend. Plus de 2700 personnes sont touchées. 80 Chinois sont décédés. Les faits à caractère raciste et xénophobe ont plus que doublé l'année dernière en 2019. Plus 130%, chiffre publié hier soir par le ministère de l'Intérieur. 1142 faits ont été comptabilisés au total. Il s'agit pour l'essentiel de menaces, écrites ou orales. Le ministère détaille également les faits visant des religions ou des croyants, avec un focus particulier sur les actes antisémites, en nette hausse de 27%, Audrey Tison.
687 faits à caractère antisémite recensés en un an. Cette hausse s'explique uniquement par l'augmentation des menaces, c'est-à-dire des propos, inscriptions ou courriers antisémites. Tandis que les actions, comme les dégradations ou violences physiques, sont en léger recul. La libération de la parole haineuse vise également les musulmans. Mais les attaques envers la communauté musulmane restent globalement moins fréquentes. 154 faits recensés. Finalement, ce sont les actes antichrétiens qui restent les plus nombreux en France, plus de 1000 faits, un chiffre stable dans le temps, essentiellement à cause des atteintes aux biens religieux, comme les dégradations dans les églises. Le ministre de l'Intérieur estime que ces chiffres appellent un sursaut de conscience de notre société, ainsi qu'une condamnation ferme et claire de l'ensemble des responsables politiques.
Un phénomène que le ministère de l'Intérieur met donc en avant à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau ce lundi. Car le 27 janvier 1945, l'armée rouge entrait à Auschwitz-Birkenau et libérait ses derniers prisonniers. Elle découvrait alors l'enfer, le plus grand camp de concentration et d'extermination nazi, symbole de l'Holocauste. 1 million de juifs y ont été tués, la plupart d'entre eux conduits dès leur arrivée vers les chambres à gaz. Aujourd'hui, sur place, près de 200 survivants seront présents pour des cérémonies officielles. Ils sont les derniers rescapés, ceux qui témoignent, ceux qui racontent inlassablement ce qu'ils ont vécu pour ne jamais oublier. Mais que se passera-t-il quand ils ne seront plus là? Qu'adviendra-t-il de la mémoire collective? Sur ce point, le directeur du musée d'Auschwitz-Birkenau, Piotr Tsevinski, est assez inquiet.
Si on s'inquiète de la mémoire après le départ des survivants, ça veut dire qu'on s'inquiète de soi-même. Soit on rejette en fait la mémoire sur les bras des survivants, sans eux, qu'est-ce qu'on va faire ? Soit on rejette cette mémoire sur les bras des enfants. Et nous, les générations entre les enfants et les survivants, personne ne se pose la question, mais que faire nous ? Le savoir quant à la Shoah est de plus en plus général. Il est transmis par les programmes scolaires, par les films, des livres, etc. Néanmoins, ce savoir ne nous rend pas plus responsables. C'est là le problème. Si je vois que, il y a 2 ans, 50 ou 60 000 Rohingyas sont massacrés en Birmanie, 500 000 de personnes fuient vers le Bangladesh, et que ça n'intéresse absolument personne, pour moi c'est une offense, non seulement à l'humanité, mais c'est aussi une offense à l'histoire. La connaissance historique ne nous rend pas plus responsables, alors qu'elle le devrait.
C'était le directeur du musée d'Auschwitz-Birkenau, interrogé par notre correspondant en Pologne, Thomas Giraudot. Vivre après les camps, nous y reviendrons plus longuement à partir de 7h40 avec notre invité Armand Bulva, rescapé du camp de Buchenwald, invité des matins de France Culture tout à l'heure. Il nous faut retirer les grenades de type Gli F4. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, l'annonçait hier après des mois de polémiques sur ces grenades du type lacrymogène classées comme armes de guerre. Elles sont accusées d'avoir causé au moins 33 blessures graves lors des manifestations ces derniers mois, dont 5 mains arrachées. Voilà donc ces grenades retirées, mais ses opposants dénoncent un coup de communication de la part du ministère. Écoutez à ce propos David Dufresne, journaliste de Mediapart, spécialiste des violences policières.
En fait, c'est une grenade qui n'était plus fabriquée depuis des années, qui était une grenade dont les fabricants eux-mêmes estimaient la dangerosité. Et c'était une grenade qui était destinée, si vous voulez, à une fin de vie, c'est-à-dire qu'on épuisait les stocks. Donc là, le ministre de l'Intérieur, en fait, précipite la fin annoncée de cette arme, sans dire évidemment qu'il y a déjà en fait une remplaçante qui va faire autant de dégâts. Mais au moins, cette décision ouvre la brèche à un débat sur l'utilisation de ces armes de guerre contre la population. Depuis quelques jours, l'Intérieur et l'Élysée ont bien compris que le discours martial et le discours de durcissement qui était le leur depuis des mois et des mois ne tenait pas. Ça ne tient pas ni à l'épreuve des faits, ni dans la population. Si j'en crois le Parisien, il y aurait eu des baromètres et des sondages internes au ministère de l'Intérieur qui auraient fait état d'une dégradation de l'image de la police auprès de la population, notamment à cause des violences policières, à cause des mutilations, à cause des morts. Cette communication dénote une forme de fébrilité, une forme de prise de conscience de la part d'une partie de l'exécutif, de la part d'une partie du corps policier, quant à l'utilisation de ces armes-là.
Des propos recueillis par Diane Berger. La prochaine manifestation interprofessionnelle est prévue pour après-demain, mercredi, contre la réforme des retraites toujours. Le gouvernement français va organiser un rapatriement par voie aérienne directe pour les Français de la région de Wuhan, épicentre de l'épidémie du coronavirus en Chine. La ministre de la Santé Agnès Buzyn précise que cela se fera sous la supervision d'une équipe médicale dédiée, alors que 3 cas de coronavirus ont été détectés sur le sol français. En Chine, en revanche, le bilan est bien plus lourd. Les autorités parlaient hier soir de 80 morts, plus de 2700 personnes contaminées. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé est attendu aujourd'hui à Pékin. Le premier ministre chinois, lui, a été envoyé à Wuhan, dans le centre du pays, Dominique André.
Nommé à la tête du groupe spécial de lutte contre le coronavirus, Li Keqiang inspecte ce matin Wuhan. Le premier ministre, deuxième homme le plus puissant de Chine après Xi Jinping, apparaît sur les photos en blouse bleue et masque sur le visage. C'est la première fois que Pékin envoie une personnalité politique de ce niveau à l'épicentre de l'épidémie. 95% des 80 décès et plus de la moitié des personnes infectées sont recensées dans la province du Hubei où se situe Wuhan. La France évacue par avion ses ressortissants de Wuhan en milieu de semaine. Le Guangdong, la plus grande province de Chine dans le sud, a imposé le masque à ses 110 millions d'habitants. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé arrive aujourd'hui dans la capitale chinoise où 68 malades sont confirmés, dont un bébé de 9 mois qui a été infecté. Les autorités chinoises prolongent jusqu'au 2 février les vacances du nouvel an alors qu'elles devaient prendre fin le 30 janvier.
Dominique André depuis Pékin pour France Culture. C'est une technologie qui est déjà arrivée en Chine et qui est attendue en France d'ici la fin de l'année. La 5G promet à nos réseaux Internet par téléphone plus de puissance, plus de vitesse aussi. Mais elle pose question. Quel sera son effet, notamment sur la santé? L'Agence nationale de sécurité sanitaire doit donner son expertise, Solène Lehen.
L'on ne cesse par sans a priori. Plus de vitesse, plus de puissance, ça ne veut pas dire forcément plus d'ondes nocives pour la santé, explique Olivier Merkel. Il est responsable des nouvelles technologies pour l'agence sanitaire.
Par exemple, quand on est passé de la 2G à la 3G, l'utilisateur de téléphone mobile est la plupart du temps beaucoup moins exposé. Et ça, c'est lié en fait aux caractéristiques de fonctionnement des téléphones avec ces nouvelles générations de téléphonie mobile.
Les chercheurs reconnaissent qu'il manque de preuves, mais estiment néanmoins aujourd'hui que les ondes de la 2G, 3G et 4G ont des effets possibles sur les mécanismes cognitifs des enfants et sur l'apparition de tumeurs. Pour la 5G, ils vont se poser les mêmes questions, observer les effets des nouvelles bandes de fréquences qui seront ouvertes, en particulier celle de 26 GHz, un champ bien plus élevé que les technologies déjà existantes.
Là, on a un comportement en fait, des champs électromagnétiques qui est très différent. Il n'y a plus d'absorption des rayonnements à l'intérieur du corps. Et donc là, on va du coup s'intéresser aux effets potentiels sur la peau et sur l'œil de ces fréquences.
L'ANSES demande aujourd'hui aux constructeurs d'antennes et aux industriels de jouer le jeu en lui fournissant un maximum d'informations techniques sur la façon dont ils entendent déployer la 5G en France.
La Ligue d'extrême droite en Italie, menée par Matteo Salvini, a été battue par la gauche hier en Émilie-Romagne. Ces élections régionales avaient valeur de test national pour le leader souverainiste italien. Il comptait en effet sur ce scrutin symbolique pour reconquérir le pouvoir. Il n'en est rien. En revanche, la Calabre passe facilement à droite avec la victoire de Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi. Soulignons enfin la mort d'une star du basketball américain. Kobe Bryant est décédé hier dans un accident d'hélicoptère avec l'une de ses filles et 7 autres personnes. Une terrible nouvelle pour le président américain Donald Trump. Son prédécesseur Barack Obama rend lui hommage à une légende du basketball. Seules les côtes près de la Méditerranée seront au sec ce lundi. Partout ailleurs, la pluie va tomber toute la journée avec des températures en légère hausse. 4 degrés ce matin à Lyon, 5 à Besançon, 8 degrés à Lille, 9 à Paris et 12 à Bayonne. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Il est 6h40 et à la une de votre journal des idées ce matin, une leçon de géographe.
Oui.
Avec leur focale élargie, le caractère polyvalent de leur approche physique, humaine, cartographique ou géopolitique. Les géographes nous aident, Jacques, à comprendre le monde.
Et oui, je cite, « La géographie permet de montrer comment s'articulent des rapports de force à de l'échelle locale à l'échelle globale. » C'est ainsi que résume le rôle de la géographie Renaud du terme dans les pages idées de Libération. Dans l'entretien accordé à Catherine Calvé et Thibault Sardier, il montre comment notre système économique fonctionne grâce aux écarts entre des lieux puissants et des périphéries pauvres, appauvrit une logique de développement mise en place avec la colonisation européenne qui a mis fin à des systèmes d'autoproduction permettant aux habitants de ne pas être dépendants du marché. Je cite, le capitalisme attise la compétition entre les territoires, il crée en permanence des centres de pouvoir. À l'échelle mondiale, ce sont des métropoles comme New York, Pékin ou Londres, mais aussi des périphéries où sont exportés les surplus et où se trouvent des ressources humaines ou naturelles à moindre coût. Le modèle s'applique donc à différentes échelles, globales avec les rapports nord-sud, continentales dans les Amériques par exemple, nationales ou locales. Auteur d'un petit manuel pour une géographie de combat, Renaud du terme dénonce le mépris des élites métropolitaines pour les ruraux enclavés et les zones périphériques désertifiées en service public. Il rappelle l'histoire des enclosures en Grande-Bretagne, l'accaparement des terres communales au détriment de dizaines de milliers de paysans anglais qui bénéficiaient de l'usage de ces terres communes. Cela les a forcés à travailler pour l'industrie et donc à devenir dépendants du marché. Dans l'hebdomadaire Le 1, Michel Fouché évoque la guerre asymétrique que se livrent les États-Unis et l'Iran, la grande puissance mondiale et la puissance régionale. Je cite le retrait américain de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien de 2015, assorti de sanctions économiques, a conduit à une baisse du PIB iranien de 4% en 2019. Et le FMI prévoit pour 2020 une nette aggravation car l'Iran n'exporte pas presque plus une goutte de pétrole et aucune entreprise étrangère ne prend le risque d'investir dans ce pays qui représente pourtant le premier marché du Moyen-Orient par la taille de sa population, plus de 83 millions d'habitants. Le géographe souligne l'isolement du pays dans la région et le rôle de Paris, Londres et Berlin pour jouer l'apaisement. Leur silence aujourd'hui sert sans doute, dit-il, à préserver une certaine audience auprès de Washington dans la perspective d'une négociation diplomatique, car les Européens ont gardé la capacité de parler à tout le monde, même si l'Iran n'a pas une, mais plusieurs diplomaties. Michel Fouché a également été diplomate. Il renoue en cela avec une tradition, celle des géographes, associés aux négociations internationales. Ce fut le cas à la fin de la Grande Guerre auprès des gouvernements des pays en conflit, en particulier s'agissant des représentants de l'école française de géographie alors en plein essor, pour dessiner la nouvelle carte de l'Europe politique. Avant cela, Paul Vidal de Lablache avait apporté son expertise dans le contentieux qui opposait la France au Brésil à propos de la frontière de la Guyane. Les éditions Macula publient son carnet de voyage en Allemagne de 1885, un pays alors ennemi. On le voit faire sans cesse le lien entre les faits de la nature et les faits sociaux dans cette humeur vagabonde et flâneuse de ceux pour qui l'observation est une manière de réfléchir. Dans sa préface, Jean-Christophe Bailly parle d'une sorte de poème effiloché où la matière du monde s'égrène et il souligne l'attention soutenue portée aux noms de lieux qui arpentent l'espace découvert. Comme le résume Maïté Bouissy sur le site En attendant Nadeau, la question de ce qui soude ou mine, un État-nation et sa grille principale d'interrogation, dans une Allemagne déjà diverse, qui a intégré des populations souvent miséreuses à l'Est, un prolétariat dont les enfants vont à l'école pieds nus en septembre. Eux ne connaissaient pas la géographie rébarbative des frontières. Les DOM sont une minorité ethnique de Syrie et du Liban, à l'origine des nomades pratiquant le commerce, sans doute issus d'une caste indienne ayant migré entre le 2e et le 6e siècle, soit bien avant les Roms. Artisans joailliers ou forgerons, puis prothésistes dentaires informels, les dentistes à la valise, fuyant la guerre en Syrie, en sont réduits désormais à la mendicité, à l'exil. La revue Gibraltar publie le poignant récit de Thomas Abgral, qui suit la famille de Sharif et Joumana. Ils empruntent la route migratoire utilisée par les DOM, pas celle de la Turquie ni de la Grèce, trop dangereuse car la Méditerranée avale des corps d'enfants, mais celle du Maghreb, la route des 5 milliards de pas. Une géographie accidentée, hérissée de frontières, qui en dit long sur la condition moderne de l'exilé. Vous écoutez France Culture et vous faites bien. Il est 6h45, c'est l'heure de retrouver Julie Gacon et les enjeux internationaux. Bonjour Julie.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, le Liban au bord de la faillite économique.
Oui, le nouveau gouvernement libanais s'est réuni en conseil des ministres la semaine dernière. Tout premier conseil autour du premier ministre Hassan Diab et des 20 personnes qu'il a choisies pour former son cabinet. Certains sont des technocrates comme le réclamaient les Libanaises et Libanais qui défilent par dizaines de milliers de personnes dans les rues depuis le 17 octobre, mais tous ont néanmoins été nommés en premier lieu pour leur appartenance religieuse. Alors, après la démission du gouvernement de Saad Hariri, la tâche qui incombe en premier lieu à ce gouvernement est d'abord d'éviter la faillite. La dette du pays atteint plus de 150% du PIB. La Banque mondiale prévoit que 50% des Libanais passeront sous le seuil de pauvreté d'ici 2 mois. Le Liban n'en est pas à sa première crise économique, mais les ressorts qui jusque-là lui ont toujours permis de rebondir, ces ressorts paraissent cassé. Bonjour Samir Haïta.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, président du Cercle des économistes arabes. Alors le nouveau gouvernement libanais énonce comme une priorité les difficultés du secteur bancaire. Est-ce que c'est parce que la crise actuelle touche les banques qu'elle est aussi grave ?
En fait, le problème se pose à l'inverse. On est en face d'une faillite de l'État, une faillite assez intéressante au plan international, contrairement au cas de la Grèce, puisque ce sont les banques locales qui portent la dette de l'État. Et en fait, tout ce système a déraillé. On s'étonne pourquoi il a mis aussi longtemps pour s'effondrer. Aujourd'hui, la Banque centrale garde les dollars des banques en disant « je vais servir uniquement pour payer le service de la dette aux mêmes banques, quelques importations de première nécessité, le pétrole, etc., et quelques dettes étrangères.
Donc
par contre, les banques, elles disent sans aucune légalité, les retraits des gens, $200 à $500 par semaine, ce qui est vraiment rien au niveau du Liban, vu la cherté de la vie, ne passe pas, je dirais, des ordres à l'international. Donc, il y a du contrôle de capital à l'intérieur du pays. Donc, les banques, techniquement, sont en faillite. Mais aucun juge n'ose déclarer la faillite des banques. Il y a, en fait, un contrôle du système politique sur l'aspect judiciaire, enfin, tout le système judiciaire du Liban. Et on est dans une situation où ce sont des pauvres gens qui payent cette faillite.
Mais comment expliquer que les banques locales, dites-vous Samir Haïta, aient pris un tel poids, à tel point, une telle ascendance, à tel point que le gouvernement leur reproche aujourd'hui à elles de ne plus payer les salaires ou les traitements des fonctionnaires, par exemple?
C'est les banques qui... C'est un système bicéphale, c'est-à-dire vous avez les chefs confessionnels qui contrôlent l'État, un État qui dépensier, etc., qui s'endette auprès de ces banques et à des taux faramineux, je dirais, en dollars du 9% d'aide de l'État. Ça s'est jamais vu comparativement à la France qui a emprunte à des taux négatifs aujourd'hui. Ces banquiers bon, n'ont pas envie d'être en faillite, puisque c'est la Banque centrale qui a pris leurs dollars pour leur servir les intérêts des emprunts que l'État a fait. Donc tout ce qu'il peut faire pour ne pas tomber en faillite, c'est ne pas donner de l'argent aux commerçants, aux petits déposants, et y compris aux fonctionnaires de l'État. En fait, il leur donne à des, je dirais, en petits morceaux, puis en livres libanaises, au lieu, à la fois au moment où le pays est complètement dollarisé et que les dépôts sont en grande majorité en dollars, qu'ils échangent dehors à des taux 30 à 50% plus cher.
La livre libanaise, elle a perdu 30% de sa valeur face au dollar ces derniers temps. Ça affecte qui en premier lieu? Parce que jusqu'à présent, la parité était à peu près stable et c'était d'ailleurs quasiment une obsession des gouvernements successifs, que cette parité soit stable.
Oui, en fait, la Banque centrale essaye de maintenir cette stabilité du taux de change pour qu'il n'y ait pas d'effet inflationniste qui s'exprime par, je dirais, un changement du taux de change et une inflation qui obligerait à augmenter les salaires des fonctionnaires publics, etc., et l'ensemble des choses. Donc, aujourd'hui, ce système sert avec une banque qui vous donne vos dollars à 1500 alors que le taux sur le marché parallèle, c'est la première fois au Liban où il y a deux marchés. En général, la Banque centrale intervenait pour stabiliser. Aujourd'hui, elle n'intervient plus. Donc, on fait c'est une terminologie qui est devenue très célèbre aujourd'hui au Liban, haircut. On coupe les cheveux. Donc, on coupe les cheveux aux petits épargnants, aux petits dépositaires, aux petits fonctionnaires, etc. Alors que dans le système bancaire libanais, 1% des déposants ont 60% des dépôts. Là, sur les 180 milliards de dépôts bancaires, l'État a perdu 40 milliards qui ont disparu. On ne connaît pas vraiment le montant de la dette publique, donc on fait payer les petits qui ont les 40% des 40 milliards de dollars au lieu de faire payer les gros déposants qui sont en fait les gens du système politique, les gens du système confessionnel.
Voilà, il ne faut pas oublier évidemment les conséquences sociales de cette crise économique avec aussi, alors c'est un cabinet d'études Inprofo qui a enquêté auprès de 300 entreprises. Il dit qu'un tiers a réduit les rémunérations des employés depuis le début des manifestations et un tiers aussi a coupé dans les effectifs. 160 000 emplois, c'est le nombre d'emplois perdus dans un pays de 6 millions d'habitants, ce sont les chiffres officiels, mais il y a aussi tous les emplois informels.
Oui, la crise, c'est-à-dire la limitation des dollars, a des conséquences très, très graves. Il faut voir ce que c'est le Liban. Quand on parle de sa force de travail, il y a les Libanais qui travaillent et il y a les domestiques étrangères. Donc, je dirais que c'est un cas comme un
Philippines,
peu dans les
beaucoup.
Philippines, Inde, Sri Lanka, etc., qui viennent ici pour envoyer de l'argent. Donc, ceux-là ne peuvent plus envoyer de l'argent à leur famille. Il y a les Syriens, quand vous avez dit 6 millions d'habitants, il y a 1,5 million de Syriens, dont beaucoup réfugiés, mais beaucoup de travailleurs, puisque même avant la guerre en Syrie, un tiers de la force de travail libanaise était syrienne.
Notamment des médecins.
Les médecins n'ont pas le droit d'exercer, mais je dirais la plupart des petits métiers en bâtiment, dans les usines, etc., sont exercés par les Syriens. Or, ceux-là, il est nécessaire qu'ils aient leur dollar pour pouvoir les faire rentrer en Syrie, faire vivre leur famille. Donc, les conséquences, à la fois sur les fonctionnaires libanais et sur tous ceux qui travaillent au Liban, toutes tendances confondues sont catastrophiques.
Alors pour que l'État ait à nouveau des recettes budgétaires qui lui permettent de relancer l'économie, il est question peut-être de revoir la politique fiscale. Pour l'instant, le système repose principalement sur des taxes indirectes, sur la consommation par exemple, et ça devait être aussi le cas de la taxe WhatsApp. Il n'y a pas beaucoup de taxes directes, ce qui logiquement serait indexé sur les revenus et les richesses. Donc ça, c'est un des chantiers que le gouvernement doit étudier. Est-ce que ce nouveau cabinet, Samir Haïta, vous paraît en mesure de répondre à la crise, un nouveau cabinet dont finalement le Premier ministre a dû le composer en fonction aussi de l'appartenance religieuse des ministres, ce qui était ce que les manifestants libanais surtout voulaient éviter à tout prix. Ça coûte cher le système confessionnel? Ça a un coût?
Ça coûte très cher. Mais commençons un à un. D'abord le système fiscal. Le problème principal, c'est qu'on ne connaît pas c'est-à-dire la dette publique, l'État n'a pas fait ses comptes, n'a pas clôturé ses comptes depuis 10 ans. Donc il y a des trous, on ne sait pas ce qu'on en est. Deux, sur ce gouvernement, etc., c'est vrai qu'ils ont été choisis par un camp, mais en fait, tous les camps ont participé au choix. Et les ministres qui ont été nommés sont les soi-disant des technocrates, mais en fait des seconds rangs dépendants des chefs confessionnels.
Et ça vous paraît quand même mieux qu'avant ?
Non, ils ne pourront rien résoudre. C'est-à-dire la crise est structurelle. Il faut effacer 40 milliards, il faut passer par une phase très très dure, et on ne voit pas qui peut l'appliquer, parce que, si vous voulez, les aides internationales ou les gens qui vont, ils vont demander que ça soit comme la Grèce. C'est-à-dire que ça soit les gens qui payent ce qui a été perdu et pas les gros déposants. C'est-à-dire quand on dit que 120 milliards sont des dépôts des 1%, donc des chefs confessionnels, etc., il faut couper dedans. Mais personne, politiquement, n'osera couper dedans. Même ce gouvernement, il dépend d'un parlement qui est les mêmes, qui dépend des mêmes chefs politiques. Donc il faut qu'il passe outre le parlement. Et on voit pas dans le système politique libanais comment on peut passer outre le Parlement.
Vous dites que vous parlez, c'est ça, de l'aide extérieure aussi, c'est-à-dire les bailleurs de fonds, tous ceux auxquels Saad Hariri avait en octobre demandé un soutien, donc les pays frères, disait-il, France, États-Unis, Arabie Saoudite et Russie, ce sont ces pays-là qui vont demander des conditions drastiques, Samir Haïta. Est-ce qu'il ne faut pas imposer certaines conditions? Il y avait plusieurs ONG de lutte contre la corruption libanaise, notamment, qui disaient qu'il ne faut pas que ce soit une aide financière extérieure, il ne faut pas que ce soit juste une bouffée d'oxygène destinée à faire gagner du temps au gouvernement sur le dos d'une société en lambeaux. Donc il faut mettre des conditions. Mais quelles conditions mettre pour pas étouffer encore plus la population?
Si vous êtes banquier, comme dans le cas de la Grèce, vous allez imposer que ce soit les petits gens qui payent. Si vous êtes parmi les petits gens, vous allez demander que ce soit les gros déposants et les chefs confessionnels qui payent. D'où cette révolution, entre guillemets, qui a traversé tout le communautarisme au Liban, ce qui est une première dans l'histoire du Liban depuis sa création. Donc, je vois pas vraiment beaucoup de gens mettre de l'argent au Liban, surtout en don, parce que ça disparaîtra dans le système et ça ne donnera rien du tout.
Merci beaucoup, Samir Haïta, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente le Festival international du film fantastique de Gérard May. Cette 27e édition, présidée par la comédienne Asia Argento, rend hommage au cinéma fantastique français à travers une grande rétrospective dans les griffes du cinéma français. Au programme, des films rares, des conférences, des expos BD, un concert Miyazaki, la compétition officielle et des nuits spéciales. Festival international du film fantastique de Gérard May, du 29 janvier au 2 février, à retrouver dans La Méthode Scientifique et dans Mauvais Genre. Un partenariat France Culture. Chaque jour sur France Culture à 10h, prenons les chemins de la philosophie, Adèle Hanouret.
Qui a dit que la philosophie n'était pas accessible à tous?
Cette semaine, sur les chemins de l'architecture, d'un art archi-utile à celui qui se dit fabricant de concepts et nous en parlera, Jean Nouvel. Bâtir, habiter et penser avec Heidegger. Comment faire du neuf avec du vieux, nos regards tournés vers Notre-Dame de Paris. Vous avez dit architecture, les chemins de la philosophie, de lundi à vendredi à 10h et sur franceculture.fr.
Il est 6h57 et vous êtes bien sur France Culture et vous êtes bien à présent avec Guillaume Erner. Bonjour Guillaume.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Et lors de votre humeur du jour pour commencer Guillaume, on commémore aujourd'hui la libération des camps.
Et le mot de Shoah et les différents termes qui lui sont associés de totalitarisme à nazi connaissent des carrières surprenantes dans la conversation nationale, pour le dire... En un mot, pendant des années, on a pu redouter la négation pure et simple de ces événements, l'oubli, mais aussi et surtout l'œuvre des négationnistes accomplissant sa triste besogne dans les esprits. Or, il y a aujourd'hui un autre danger, un danger auquel contribuent tous ceux qui banalisent le terme de Shoah, autrement dit, qui voudraient en finir avec l'unicité de cet événement, tous ceux qui contribuent finalement à faire de la Shoah une métaphore. C'est exactement ce que redoutait George Steiner, le philosophe, lorsqu'il évoquait la longue vie de la métaphore, parce qu'une métaphore, lorsqu'elle se transforme, devient une forme vide, une catacrèse, comme on dit en rhétorique. Si l'on y prend garde, la Shoah se transformera progressivement en catacrèse, une métaphore vidé de son contenu, un terme mort qui désigne tout et n'importe quoi et surtout désigne de moins en moins un événement réel et concret. Voilà ce qui nous menace dans ce climat où chaque jour on fait assaut de points Godwin, de réduction à Hitlerum, où tout est nazi par parce que si tout est nazi, plus rien ne l'est, parce que la singularité du phénomène va se perdre dans une multitude de comparaisons jusqu'à faire oublier ce qu'a été cet événement. Plus j'y pense, plus je comprends Lanzmann, le cinéaste auteur de Shoah. Au début, je ne comprenais pas très bien pourquoi il refusait toute forme de représentation, me disant que la pédagogie valait mieux que l'oubli. Désormais, j'ai peur comme lui de la dilution de la Shoah dans l'insignifiance, un événement qui fascine et attire en raison de sa monstruosité bien sûr, mais perd progressivement de sa concrétude et de sa vérité, comme si plus nous en parlions, moins on le pensait. Les derniers témoins témoignent parce qu'ils ont peur que les générations futures oublient. Et pourtant, je crois qu'il y a un autre risque, c'est plutôt le fait de tout savoir et ne plus rien comprendre.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et aujourd'hui, puisque l'on commémore la libération du camp d'Auschwitz 75 ans après, nous allons vous donner à entendre deux rescapés, un rescapé de Buchenwald, Armand Bulva, aux environs de 7h40, et un rescapé du génocide Khmer Ritipan sera avec nous aux environs de 8h20. En attendant, il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un bon réveil.